Nous lirons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 et 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Nous lirons maintenant les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que l'Éternel bénisse sa parole.
Je salue fraternellement chacun de vous, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver ici chaque sabbat. Il y a 50 ans, j'étais au séminaire adventiste à Collonges. Et un vendredi soir, comme chaque vendredi soir, il y avait une réunion d'édification. Et l'orateur avait posé cette question à l'assemblée. Comment vous représentez-vous Dieu ? Aucune réponse précise, évidemment, n'a pu être donnée ce soir-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible aujourd'hui d'en donner une. Je vous propose tout de même d'y réfléchir à la lumière de la parole de Dieu pendant quelques instants. Est-il possible de voir Dieu ? Quelques jours avant le récit qui a introduit notre méditation à l'instant, Jésus célébrait sa dernière Pâque avec ses disciples. Après le souper, lorsque Judas fut sorti pour accomplir sa triste besogne, Jésus annonça une fois de plus aux disciples qu'il allait bientôt les quitter. Jean chapitre 13, verset 33. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous ne pouvez venir où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Mais Simon-Pierre, troublé par ces paroles, a posé cette question à Jésus, au verset 36. « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Au cours de cette méditation, ce matin, j'utiliserai quelques citation de notre commentaire biblique adventiste. Et tout d'abord, une première citation tirée de Jésus-Christ d'Ellen White, page 666. En entendant ces paroles, les disciples furent saisis de frayeur et se serrèrent autour du Sauveur, leur maître et seigneur, leur ami fidèle, plus cher que leur propre vie. C'est à lui qu'ils s'étaient adressés dans toutes leurs difficultés, et c'est auprès de lui qu'ils avaient cherché la consolation de leur douleur et de leur désappointement. Il allait maintenant les laisser seuls et de nombreux pressentiments remplissaient leur cœur. Le trouble et l'incompréhension des disciples ont persisté, car c'est ensuite Thomas qui a posé pratiquement la même question à Jésus. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et la réponse de Jésus est surprenante. Au verset 6 du chapitre 14, il dit ceci, « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Puis il ajoute, « Et vous l'avez vu ?» Cette affirmation n'a fait qu'augmenter le désarroi des disciples, car c'est ensuite Philippe qui interpella Jésus, en une demande précise, directe, presque sans appel. Verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Cette demande formulée de la sorte semble exiger de Jésus une seule réponse qui répondrait véritablement aux inquiétudes des disciples et qui calmerait peut-être leurs appréhensions. Ils voulaient voir Dieu, « Montre-nous le Père !» Philippe ne pouvait pas ignorer que, selon l'Écriture, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Un texte que nous trouvons dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 19. Et malgré cela, en cette circonstance particulière, Philippe n'hésita pas à demander l'impossible à Jésus. Voir Dieu, montre-nous le Père. Cette demande a attristé Jésus, car il a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'es pas parvenu encore à me connaître, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. » Et poursuivant son entretien, Jésus annonça aux disciples qu'après son départ, il prierait le Père et il leur enverrait l'Esprit de vérité qui restera avec eux et par lequel ils le verront. Car l'Esprit leur enseignera toutes choses et leur rappellera tout ce que Jésus leur a dit. « Encore un peu de temps, dit-il, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Comment pourront-ils donc voir Jésus après son départ ? Voici un extrait du commentaire biblique, volume 5. Peut-être que Philippe espérait une révélation de la gloire divine telle qu'elle fut donnée à Moïse. Il était décourageant pour Jésus que ses disciples soient si lents à comprendre. Cependant, il a patiemment agi en fonction de leur ignorance. Les paroles et les œuvres de Jésus témoignaient ensemble de sa divinité. Personne n'a jamais vu Dieu, affirme l'apôtre Jean. C'est Jésus qui l'a fait connaître. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est 1er épître de Jean, chapitre 4 et verset 12. Encore un extrait du commentaire. Dans ce texte grec, le mot pour Dieu apparaît sans article, ce qui indique que Jean pense à la nature et au caractère de la divinité plutôt qu'à sa personnalité. Et le mot qui est employé dans l'original pour « vu » signifie « attentivement »,« voir attentivement »,« contempler ». Et dans son évangile, Jean a expliqué que seul le Fils pouvait révéler le Père, parce que lui seul a toujours vu la divinité. Et l'apôtre nous dit que bien que nous ne puissions voir Dieu en exerçant l'amour fraternel, nous pouvons avoir le Dieu invisible demeuré dans nos cœurs. Les pécheurs ne peuvent voir Dieu face à face et vivre. Et pas même Moïse, le grand législateur d'Israël, ne fut autorisé à le contempler. Moïse voulait voir Dieu. « Fais-moi voir ta gloire, dit-il. » Le peuple hébreu qui sortit d'Égypte était accoutumé aux formes visibles des divinités égyptiennes. Et c'est pourquoi, s'impatientant de ce que Moïse restait si longtemps sur la montagne auprès de Dieu, ils demandèrent à Aaron un Dieu visible. Exode 32, verset 1er. « Allons, fais-nous un Dieu qui marche avec nous. » Après la débauche du peuple lors de l'idolâtrie du veau d'or, Moïse implora le pardon de Dieu. Dieu désirait détruire son peuple. Mais Moïse a intercédé, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Pour conduire ce peuple rétif vers le pays promis, Moïse avait plus que jamais besoin du secours de l'Éternel. Au verset 12 du chapitre 33 de l'Exode, il dit ceci: « Tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Il supplia le Seigneur d'être à ses côtés. Verset 15 du chapitre 33, toujours de l'Exode, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Réconforté par les promesses de Dieu, Moïse lui demanda ce qu'aucun homme n'avait encore osé lui demander. Toujours dans ce même chapitre, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Quelques lignes du commentaire biblique nous disent ceci: « Bien que Dieu ait répondu à ses prières en faveur d'Israël, Moïse aspirait à une autre évidence de la faveur divine. Il avait déjà été en présence même de Dieu en plusieurs circonstances, mais la réalisation solennelle de la tâche qui était la sienne lui a fait ressentir le besoin d'une relation encore plus intime avec Dieu. Ceci l'a conduit à une demande qu'aucun homme n'avait encore jamais formulée et qui serait pour Moïse une force pour la tâche qui lui incombait. Il avait beaucoup demandé pour son peuple et il n'était pas inapproprié qu'il puisse maintenant pour lui-même avoir l'assurance du succès pour ses œuvres. Comme Jésus le fit pour Philippe, Dieu aurait pu reprocher à Moïse de ne pas avoir discerné sa gloire et sa bonté, voire même sa présence dans les prodiges extraordinaires qu'il avait accomplis pour faire sortir son peuple d'Égypte. Une autre citation nous dit ceci: « Trop souvent, c'est une conscience coupable qui nous fait nous retirer de la présence du Seigneur de la vie. Il en fut ainsi lorsque nos premiers parents se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Genèse 3, verset 8. C'est parce que la vie de Moïse était en harmonie avec la volonté du Créateur qu'il put se tenir en présence du Seigneur et n'en fut pas effrayé. Plus l'homme connaît de Dieu, plus il aspire à connaître de lui. Moïse n'a pas pu voir Dieu face à face lorsqu'il était sur la montagne, mais il lui fut permis de voir ce que le texte définit comme une forme de Dieu. Exode 33, versets 22 et 23. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Au chapitre 34, toujours de l'Exode et au verset 4, Moïse se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Un peu plus loin, au verset 28 de ce même chapitre, il est dit ceci: « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Bien que l'homme ne puisse voir Dieu et vivre, n'aurions-nous pas, nous aussi, en des circonstances exceptionnelles, particulières, le désir de bénéficier d'une faveur identique à celle de Moïse, qui parlait avec Dieu et à qui Dieu répondait? Un autre personnage, Job, était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et il s'écartait du mal, nous dit le texte, Job chapitre 1er. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Contemporain de Moïse, il vivait dans l'opulence à Madian, jusqu'au jour où le malheur s'abattit brusquement sur lui. Nous ne savons pas quelle en fut la durée, mais plusieurs passages de ce récit suggèrent que Job désirait ardemment voir Dieu, afin de comprendre les raisons de son malheur, de ses souffrances, mais il n'y parvenait pas. Plusieurs textes l'expriment. Job 13, verset 24. « Pourquoi caches-tu ton visage ?» 19, verset 21. « Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. » Il ajoute cependant au verset 25 de ce chapitre 19, « Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. » Mais il espérait cependant avoir une réponse de Dieu avant cette échéance finale, avant sa mort, bien sûr. Verset 23, verset 3. « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. » Chapitre 30, verset 20. « Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. » Chapitre 31, verset 35. « Que le Tout-Puissant me réponde. » Alors que trois amis de Job s'efforçaient longuement, l'un après l'autre, de le convaincre qu'il était puni de Dieu à cause de ses fautes, Job affirmait fermement son innocence et ne désirait qu'une seule chose, voir Dieu. Voir Dieu pour comprendre la raison de son malheur. Et après que ses trois amis eurent cessé de lui parler, c'est un jeune homme, Élihu, qui s'adressa longuement à lui et lui a montré combien Dieu est juste, combien ses œuvres sont magnifiques. Et en particulier, il dit ceci, chapitre 33, verset 14, « Dieu parle, cependant, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. » Était-ce le cas pour Job ? Aurait-il manqué d'attention envers Dieu ? Ne l'aurait-il pas entendu ? Et c'est après un long discours de ce jeune Élihu que Dieu a enfin répondu à Job, au milieu de la tempête, nous dit le texte. Un commentaire nous dit ceci, la réponse de Dieu à Job occupe quatre chapitres de son livre, du chapitre 38 au chapitre 41. Et les chapitres 38 et 39 sont étroitement liés et constituent pour Job un rappel de la puissance créatrice de Dieu et lui offrent une vision plus large de la divinité. Son but n'est pas d'argumenter, mais de se révéler lui-même à l'homme, non pas de dévoiler à Job les raisons de sa souffrance, mais une claire compréhension de Dieu. Toujours dans ce même commentaire, j'ajoute ceci. Beaucoup de questions de Dieu à Job reviennent aux origines, et le problème philosophique de Job était ce qu'il n'avait pas encore compris, l'origine de son trouble. Dieu a dirigé l'attention de Job vers les innombrables aspects du monde naturel qui le révèle comme créateur de toutes choses. Il les soutient par sa puissance. Et comment ne serait-il pas attentif à la misère de Job ? Toujours dans le même commentaire, un peu plus loin, l'expérience de Job lui a enseigné la signification de la foi. Sa vision de Dieu lui a permis de se soumettre à la volonté divine. Désormais, sa loyauté pour Dieu n'est plus affectée par les circonstances de sa misère. Il ne considère plus les bénédictions temporelles comme une preuve de la faveur divine. Sa relation avec Dieu est maintenant basée sur une plus grande dépendance envers Dieu. Job a trouvé une solution à ses problèmes lorsqu'il a découvert que Dieu n'est pas limité par les traditions que les hommes ont développées à son sujet. C'est cette plus grande compréhension que Job affirme lorsqu'il déclare enfin, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette déclaration s'apparente à l'expérience de la foi qui est fortement exprimé tout au long des Écritures, et tout spécialement dans l'Évangile de Jean et dans les Épîtres de Paul. Comment Job a-t-il pu voir Dieu ? A-t-il pu affirmer qu'il avait vu Dieu ? Dans son évocation des héros de la foi, au 11e chapitre de sa lettre aux Hébreux, Paul nous donne tout d'abord une définition de la foi. C'est, dit-il, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Puis il ajoute, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les réalités promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Thomas refusait de croire que Jésus fût apparu aux disciples au soir de la résurrection, alors qu'il était absent. Mais 8 jours plus tard, Thomas était présent et Jésus est à nouveau apparu aux disciples. Il a dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Philippe, Moïse et Job ont désiré ardemment voir Dieu, bien qu'il soit invisible pour l'homme. Dieu ne pouvait pas accéder à leurs demandes, mais les réponses qu'ils ont reçues leur ont ouvert les yeux sur les réalités évidentes de sa présence dans leur vie. La réponse de Jésus à Philippe en forme de reproche était la démonstration qu'en réalité, le Philippe demandait ce qu'il voyait. Tandis qu'il suivait Jésus jour après jour, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. À Moïse, Dieu avait répondu, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » C'était lui rappeler les choses extraordinaires qu'il avait vues depuis ce buisson qui brûlait dans le désert sans se consumer, jusqu'aux nombreux miracles que Dieu avait accomplis pour délivrer son peuple de l'esclavage égyptien, et jusqu'à ce jour même où Dieu venait de pardonner l'idolâtrie du peuple. Et à Job, qui cherchait désespérément Dieu pour comprendre sa misère, Dieu a répondu, Job 38, verset 4, « Mais où étais-tu quand je fondais la terre ?» Et dans une magnifique révélation des objets de sa création, Dieu était bien là, il était bien là, invisible mais présent. Mais si Dieu a dit que l'homme ne pouvait le voir et vivre, il s'est tout de même manifesté à plusieurs d'entre eux, et d'une manière visible au cours de l'histoire biblique, par l'intermédiaire de ses messagers. C'est ainsi que l'Éternel se présenta à Abraham, l'ami de Dieu, et le texte précise que ce sont 3 personnages qui lui sont apparus, sans lui inspirer de crainte. Genèse 18. Il en fut de même de Josué, alors qu'il se préparait à attaquer Jéricho, un homme se présenta à lui, son épée nue à la main. « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» lui demanda Josué. L'homme répondit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. » Une nuit, alors que Jacob craignait d'affronter la vengeance de son frère Ésaü, il a lutté jusqu'à l'aurore avec un inconnu qu'il ne pouvait vaincre. Mais lorsqu'il prit conscience qu'il avait lutté avec l'Éternel, il s'est écrié, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. » Au temps des juges, Canaan fut envahi et pillé par les Madianites. Mais l'Éternel eut pitié de son peuple et suscita un libérateur, Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon craignit pour sa vie, pensant qu'il avait vu Dieu, mais l'Éternel le rassura, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Marie fut bien visitée par l'ange Gabriel. Et le texte précise qu'elle fut troublée, mais non pas par l'apparition de l'ange, mais par la salutation qu'il lui adressa. « Je te salue, à toi qui, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur s'est également montré à Saul de Tarse, persécuteur de l'Église primitive. Et ce fut une rencontre aveuglante, éblouissante, qui changea immédiatement le cours de sa vie. À nous qui aimerions aussi voir Dieu, ce Dieu invisible ne se serait-il jamais révélé d'une manière ou d'une autre au cours de notre vie? Ne nous aurait-il jamais parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que nous y prenions garde? Et voici comment l'apôtre Paul exprime sa conviction de la réalité d'un Dieu tout de même visible, pour le moment, mais seulement par ses œuvres. Voici ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Nous connaissons ces textes, bien sûr. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il est vrai que des fables modernes, habilement conçues, tentent de détourner notre attention des perfections invisibles de Dieu. Nos possibilités de découvrir Dieu dépendent de l'idée qu'on se fait de lui. Est-il ce Dieu tout-puissant, véritable créateur, qui parle et la chose existe, qui ordonne et elle paraît, comme dit le texte? Ou bien serait-il un Dieu limité, indifférent au sort de l'homme, le livrant à une éventuelle et hasardeuse évolution? Ces fables habilement conçues dont parle l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 16, véritables idoles modernes, ces fables n'ont pour objectif que de détruire en l'homme l'image parfaite du Dieu créateur. Il y a plusieurs années, j'ai fait la connaissance d'un homme qui suggérait une certaine vision de Dieu. Il était musicien et étant passé par la conversion, il avait exprimé ses convictions dans la composition de plusieurs chants de louange. Et l'un de ces chants était une invitation à lever les yeux. J'ai eu l'occasion d'interpréter ce chant à plusieurs reprises, étant accompagné par lui-même au piano. Mais j'ai toujours été intéressé par le refrain, ce refrain qui disait ceci: « Lève les yeux pour admirer ton Dieu ». Suffirait-il de lever les yeux pour voir Dieu? Il est vrai qu'en levant les yeux par une nuit claire, il est possible d'admirer l'œuvre du Créateur dans le scintillement des milliards d'étoiles qui peuplent notre ciel. Mais en réalité, les paroles de ce chant aspirent à une autre vision de Dieu, celle que l'on souhaiterait découvrir alors que les difficultés assombrissent nos vies. Et ce qui m'avait intéressé au sujet de ce chant, c'est le fait que mon ami Marcel, il était tout simplement aveugle de naissance, ainsi que son épouse Catherine, qui était dotée d'une jolie voix et qui interprétait aussi ses chants. Et je me suis toujours posé cette question: comment pouvait-il, lui aveugle, nous dire à nous qui voyons, lève les yeux pour admirer ton Dieu? Cette phrase fait écho à ces paroles du prophète Ésaïe: levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui ne fasse défaut. Ésaïe 40, verset 26. Un commentaire que j'ajoute: si les hommes voulaient seulement élever leur vision vers le ciel, c'est leur privilège d'admirer l'évidence indéniable d'un créateur qui soutient toute chose. Il siège, comme cela était, au-dessus des hôtes étoilés des cieux, dirigeant l'univers qu'il a créé. Alors que nous contemplons le nombre des étoiles, leur ordre parfait, leur gloire et leur beauté, nous ne pouvons qu'être impressionnés par notre insignifiance et de la transcendante puissance de Dieu. Tous les corps célestes poursuivent leur course, chacun à son nom et sa place, et chacun a son rôle dans la grande procession de l'espace. Bien que l'homme ne puisse voir Dieu et vivre, n'avons-nous jamais pressenti, ressenti son action dans nos vies, d'une manière ou d'une autre? Et nous pourrions, en conclusion, ajouter ces quelques lignes d'un texte bien connu, tiré d'un certain Saint-Exupéry. Que dit-il ? On ne voit bien qu'avec le cœur, disait le renard au petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Si pour le moment nous ne parvenons pas à nous représenter Dieu, la Bible affirme que nous le verrons. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre ferme assurance n'est-elle pas de pouvoir un jour réellement admirer notre Dieu créateur? Alors qu'admis en sa présence, nous pourrons, quoi donc, le voir face à face et durant l'éternité. N'a-t-il pas mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? Ecclésiaste 3, verset 11. Je souhaiterais qu'on puisse chanter ce chant de mon ami Marcel, « Lève les yeux ». Peut-être qu'on pourrait le chanter ensemble, je pourrais le chanter, vous pourriez me reprendre les refrains. Je ne sais pas si on peut projeter le refrain sur l'écran, on peut l'exercer une fois, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avant. « Lève les yeux ». Le refrain nous dit ceci, « Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux pour admirer ton Dieu ». On va le chanter une fois, s'il est là.
Pleurer des espèces.
Merci, notre Dieu, parce que tu nous donnes cette espérance de pouvoir voir ton visage, voir ta face, être admis en ta présence, pouvoir te contempler. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui nous a parlé de toi, qui nous a montré déjà ta présence parmi nous. Merci de ce que tu nous gardes aussi jour après jour, tu nous protèges. Nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Même si nous ne te voyons pas, notre Dieu, nous sommes que tu es présent, car tu nous l'as dit, tu l'as affirmé, que si nous sommes réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci pour cette espérance que tu nous accordes. Merci parce que nous sommes ton peuple et que nous avons la chance de te connaître et de te prier, t'admirer également, en attendant de te voir face à face un jour. Veuille nous pardonner, nous rendre dignes d'être admis en ta présence, Seigneur. Diriger nos pensées vers toi, que nous puissions avoir la vision de ce que tu nous as promis. Reste avec nous durant les heures qui vont suivre de cette journée de sabbat que tu as mise à part. Sois avec chacun d'entre nous. Nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.